Je commencerai par une introduction au transhumanisme. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, d'abord comme différents courants en ce qui concerne donc toutes les questions liées au progrès technologique et quelques petits avertissements. Donc ça n'engage que moi maintenant. Je change d'avis de temps en temps. Seuls les idiots ne changent jamais d'avis, et cela je l'ai toujours dit, comme disait un humoriste. Donc voilà, en tant que vice-président, co-président de Hills, et sachant que c'est très difficile de faire des prévisions, surtout lorsqu'il s'agit du futur. Quelques catégories de transhumanistes sur lesquelles je vais m'étendre un petit peu. On va dire du pire au meilleur, ou du plus pessimiste au plus optimiste, de gauche à droite. Voilà les catégories que je vais aborder. Alors, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, mais il y a eu des gens qui avaient une vision vraiment catastrophiste des progrès technologiques qui étaient, en fait, il est inévitable qu'à un moment, les progrès technologiques arrivent à la création de deux catégories d'humains, les augmentés et les non-augmentés, et que ça provoque un conflit, et que c'est seulement en partant de ce conflit qu'après le monde pouvait se transformer radicalement. La personne la plus connue dans ce courant de pensée-là, c'était Hugo de Garis, qui est quelqu'un qui a vécu en Belgique, pour l'anecdote, puisque je viens de Belgique, et qui habite maintenant en Chine. Ensuite, il y a les transhumanistes singularitariens. Qu'est-ce que c'est que cette idée de singularité? C'est l'idée qu'à un moment, les progrès technologiques, et particulièrement le développement de l'intelligence artificielle, s'accélèrent tellement rapidement que cela devient d'une part incompréhensible aux êtres humains que nous sommes, et puis aussi que cela est imprévisible, ce qui va se passer. Donc c'est à un moment, la singularité, nous passons dans une dimension du futur que nous ne pouvons même pas appréhender. La personne la plus connue dans ce courant de pensée-là, c'est Ray Kurzweil, qui travaille chez Google. On dit parfois qu'il est l'ingénieur en chef de Google, mais ce n'est pas exact. Il est un des ingénieurs de chez Google. Et c'est également l'idée que vous avez très certainement, enfin très, très probablement déjà vu de temps en temps. Donc c'est la puissance de l'informatique double tous les 18 mois, et à un moment ça s'emballe de manière, étant donné que c'est un développement exponentiel. Il y a aussi un certain nombre de transhumanistes, moi je définirais cela comme mécanistes, on pourrait dire hegeliens, cette conviction que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, de toute façon, il y aura une évolution technologique, que cette évolution technologique est plutôt positive, et donc c'est le sens de l'histoire, et finalement, c'est pas la peine de faire quelque chose. Quand j'étais jeune et de gauche, maintenant je suis vieux et de gauche, quand j'étais jeune et de gauche, il y avait des gens qui étaient marxistes dans cette idée-là, c'était, bon, de toute façon, peu importe ce que vous faites, l'évolution vers une société meilleure est totalement inéluctable, ça mène en fait à une sorte d'indifférence vis-à-vis des évolutions technologiques. Alors, probablement la catégorie dont on parle le plus, c'est transhumaniste fascisant, transhumaniste inégalitaire. L'idée qu'il est positif de créer deux ou même plusieurs types d'humains, que donc une société duale est souhaitable. Mais en fait, je vais vous dire, presque je n'en ai jamais rencontré des transhumanistes comme ça. Il y a eu, ça s'appelait le futurisme, donc il y a eu dans les pré-transhumanistes des gens à la période, les années 30, qui voyaient le futur et qui voyaient les inégalités, et vous comprenez aussi par rapport à l'Allemagne nazie, les hommes supérieurs, mais aujourd'hui, franchement, ça n'existe pas. Ou en tout cas ça n'existe que de manière microscopique. Il paraît qu'il y a un site internet qui existe, mais moi je ne l'ai pas rencontré, mais peut-être que Gabriel pourra en dire plus tout à l'heure. Par contre, ce qui on va dire réellement existe, ce sont les transhumanistes libertariens. Alors les libertariens, c'est parfois difficile à comprendre dans le monde européen ce que c'est un libertarien. C'est quelqu'un qui estime que tous les aspects de liberté, que ce soit de liberté économique, mais aussi de liberté de transformer son corps, et puis de liberté, on va dire, des opinions, c'est plus important que la question de... C'est même beaucoup plus important que la question de la réduction des inégalités. Et ça comprend aussi, pour ce qui concerne les transhumanistes, l'idée que vous entendez parfois aussi dans la politique classique, y compris française, cette idée de ruissellement. Donc, quand vous avez des progrès technologiques, ces progrès technologiques sont d'abord pour les riches, et puis petit à petit, ça permet à tous de les avoir. Et pour ce qui concerne les progrès technologiques, ça, c'est la conception libertarienne. Cette conception libertarienne avait d'abord été, on va dire, popularisé par un des fondateurs du mouvement transhumaniste qui s'appelle Max Mohr, qui est toujours actif aujourd'hui dans le mouvement transhumaniste, mais qui n'est pas un des plus actifs. Et aujourd'hui, c'est un mouvement minoritaire. Et donc, tant en France que, contrairement à ce qu'on peut souvent penser, même dans le monde, l'option la plus courante, c'est quand même transhumaniste, disons, technoprogressiste. Donc le sous-titre du livre que Mark Crooks et moi avons écrit, c'est le transhumanisme au service du progrès social. C'est estimer que les progrès technologiques peuvent, mais ne vont pas nécessairement amener des progrès, notamment en matière d'égalité, estimer que c'est important d'avoir des investissements publics pour ces progrès, et puis que ces investissements et que ces améliorations technologiques soient des améliorations qui soient choisies et non obligatoires. Donc mon point de vue ultra résumé, donc technoprogressiste, je vous ai dit, conscience des risques, je vais y revenir, et c'est particulièrement intéressant par rapport aux personnes qui sont présentes ici, convaincu d'une accélération rapide sauf bouleversement, avec comme priorité, ça j'en parlerai spécifiquement plus tout à l'heure, la question de, c'est pas immortalité, c'est amortalité, ne plus un jour pouvoir mourir de maladies liées au vieillissement. Le progrès n'est pas un long fleuve tranquille, pour paraphraser le titre d'un film qui, je crois, se passait pas tellement loin d'ici. Alors, d'abord, il y a eu des prédécesseurs au transhumanisme. Je trouve que les prédécesseurs les plus loin dans l'histoire, c'est probablement les taoïstes. Donc, le taoïsme, c'est une religion qui apparaît il y a plus de 25 siècles et dont un des objectifs, c'est d'atteindre l'immortalité. Et on atteint l'immortalité par des processus qui sont des processus physiques. Donc c'est une sorte de vision pré-scientifique. Et pour l'anecdote, ça se faisait d'abord en apprenant l'ascèse de plus en plus perfectionnée, et à la fin, on arrêtait de respirer. Mais ça fonctionne relativement mal. Ensuite, il y a le pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole, c'est au XVe siècle. C'est un des premiers à exprimer cette idée que l'être humain pourrait se transformer et s'améliorer par des moyens, on va dire, pré-technologiques. Le marquis de Condorcet est le premier à avoir, probablement, ou un des premiers à avoir exprimé clairement l'idée que les progrès technologiques pourraient probablement nous permettre un jour de ne plus mourir de maladies liées au vieillissement. Ensuite, Nikolaï Fiodorov, c'est un philosophe russe qui est l'inventeur ou un des inventeurs d'un mouvement qu'on appelle le cosmisme. Le cosmisme, c'est du pré-transhumanisme avec parmi les dimensions l'idée que peut-être un jour nous pourrions arriver, pour tous les êtres humains, à les reconstituer, donc à recréer une vie sans limitation de durée pour tous. Et aussi cette idée cosmis, cosmos, ensemble, qu'un jour tous les êtres humains pourraient être reliés dans une sorte de conscience, d'un grand tout, ce qui amène à l'idée de noosphère de Pierre Teilhard de Chardin, un des chrétiens, mais il y en a d'autres, qui ont réfléchi aux questions relatives au transhumanisme. J'insiste sur le fait que, en tout cas de mon point de vue, la différence entre ces pré-transhumanistes et les transhumanistes aujourd'hui, c'est pas une différence d'idées, c'est plutôt une différence entre à l'époque, il n'était pas envisageable techniquement d'y arriver. Aujourd'hui, cela devient envisageable. Donc, vous savez probablement tous que nous sommes à une période de l'humanité avec une croissance des connaissances et des mécanismes de maîtrise, mais aussi de non-maîtrise de l'environnement sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Je dis relativement souvent, aujourd'hui c'est à la fois le jour le plus beau de l'histoire de l'humanité et c'est aussi le jour le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Et c'est cette question-là, cette ambivalence-là, que souvent on ne remarque pas quand on voit le mouvement transhumaniste. On se dit, les transhumanistes, c'est des gens naïfs qui se disent que tout va aller mieux de manière inéluctable et certaine. Non, absolument pas. Les transhumanistes, souvent, examinent les questions des risques, donc le futur qui ressemblerait au présent dans 50 ans est un des moins probables. Un futur à espérer, c'est un futur sans maladie liée au vieillissement, mais les risques sont extrêmement importants. Et pourquoi, et aussi encore, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Pourquoi est-ce que je viens à des conférences comme celle-ci ou ailleurs des dizaines de fois par an? Parce que je n'ai pas une vision mécaniste et je pense que donc les progrès technologiques dépendent de beaucoup d'éléments et ça dépend réellement notamment de nos choix et de nos prises de conscience et de qu'est-ce que nous faisons comme priorité. C'est absolument fascinant qu'entre le premier objet envoyé dans l'espace et le premier être humain sur la Lune, il s'est passé à peine 12 ans, un bond technologique tellement gigantesque qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent, enfin qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui pensent que ce n'est même pas vrai, et qu'entre, par exemple, 1978 et 2018, pour ce qui est du déplacement dans l'espace atmosphérique cette fois-ci, on n'a pas progressé, on a même régressé, puisque le Concorde ne vole plus. Donc c'est vraiment des choix que nous faisons, et le progrès technologique, ce n'est pas quelque chose d'inéluctable. Mais par contre, le progrès technologique, c'est quelque chose qui, quand on le regarde aujourd'hui, on a l'impression que ça se passe tout seul, on va dire, ou plus exactement, que ce qui est envisagé pour le futur est inimaginable. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui serait totalement inimaginable, même pour quelqu'un d'il y a à peine 30 ans. Donc, je suis suffisamment, mais on n'est pas beaucoup ici, suffisamment vieux pour me rappeler du temps où ceci c'était de la science-fiction absolue. Donc, si on avait dit il y a à peine 30 ans à quelqu'un comme moi que d'ici 30 ans, la majorité des citoyens du monde auraient accès à plus de connaissances que n'importe qui à l'époque, et cela à travers un objet d'une centaine de grammes et coûtant moins qu'une centaine de dollars, ben, moi je ne l'aurais même pas cru. Mais dans l'autre sens, il y a d'autres choses que je n'aurais pas cru non plus. Si on m'avait dit il y a 30 ans, la personne la plus âgée au monde ne sera pas plus vieille dans 30 ans qu'elle n'est aujourd'hui, ben, je ne l'aurais pas cru non plus, puisque la personne la plus âgée au monde a vécu 122 ans, est décédé en 97, et aujourd'hui la personne la plus âgée au monde n'a que 112 ans. Vous connaissez probablement tous dans le domaine, enfin beaucoup d'entre vous, dans le domaine des accélérations, cette image. Si l'histoire de la vie devait durer une année, ce serait mieux qu'un année, j'avoue. Les premiers ancêtres de l'homme se seraient tenus debout le 31 décembre à midi. La première lettre d'amour aurait été écrite à 23h59. La première arme nucléaire aurait été utilisée durant la dernière seconde et remis en chiffres, ça fait la vie environ 3,8 milliards d'années, l'Homo sapiens 300 000 ans et les premières cités seulement moins de 10 000 ans. Ce qui veut dire aussi que l'idée que nous sommes des êtres humains naturels est quelque part incorrecte. Donc, durant 95% de l'histoire de l'humanité, personne ou quasiment personne ne vivait plus de 50 ans. Donc, dans toute l'histoire de l'humanité, moi je suis transhumain puisque j'ai plus que 50 ans. 97% de l'histoire de l'humanité s'est passé sans écriture. Et le vieillissement, c'est effectivement quelque chose de naturel, mais comme la peste et le choléra. Et nous transgressons la nature depuis depuis que nous sommes humains, même depuis avant que nous soyons devenus humains, puisque la maîtrise du feu, c'est déjà une transgression de la nature. La loi de Moore, je pense que j'en ai déjà parlé, donc le doublement de la puissance informatique tous les 18 mois environ, c'est ce qui, ces dernières décennies, est la base de beaucoup de progrès technologiques. Maintenant, quelques domaines de ce que c'est vraiment le transhumanisme. Transhumanisme au sens le plus strict, je pense qu'il y a trois dimensions. Longévité, j'y reviendrai largement. Cognitif et capacité physique. Cognitif, il y a trois sous-domaines. Les améliorations au point de vue de l'intelligence, les améliorations au point de vue de l'empathie, la capacité à s'aimer les uns les autres, et les améliorations au point de vue du niveau de bonheur. Et puis les capacités physiques classiques, ça c'est ce que vous voyez relativement souvent quand on parle de transhumanisme, mais ce n'est pas ce qui, ce qui fascine le plus. Donc plus haut, plus fort, plus vite. Ça c'est pour le sens le plus strict. Dans un sens un peu plus large, il y a tous les domaines qui concernent les progressions technologiques en général. Les questions de l'intelligence artificielle, la singularité que j'ai déjà abordée, tout ce que j'appelle moi le domaine des vertiges, et puis la transition laborale, c'est-à-dire le fait que grâce au progrès technologique, grâce ou à cause, ça dépend, et grâce au progrès de tout ce qui est robotisation, il est envisageable de supprimer quasiment totalement, voire totalement, le travail humain en tant que travail, en tant qu'activité productrice obligatoire. Et puis, d'autres domaines parallèles, la question des abondances renouvelables. Donc, vous savez que nous sommes dans une période où une des difficultés principales, c'est la question du réchauffement climatique, et cette question peut être, enfin, peut être, est envisageable, il est envisageable de le résoudre, notamment avec des énergies renouvelables. La question de comment produire des énergies renouvelables de manière technologiquement satisfaisante est une question qui préoccupe pas mal de transhumanistes. Et puis alors, mais c'est devenu beaucoup moins, je dirais, à la mode, où on en parle beaucoup moins tant chez les transhumanistes qu'ailleurs. Mais jusqu'il y a 20 ou 30 ans, c'était quelque chose qui venait très souvent. Donc la Terre, c'est le berceau de l'humanité. Resterons-nous toujours dans le berceau ou émigrerons-nous en tout ou partie un jour? Alors, maintenant, le côté pile et côté vertige. Donc, la catégorie que les transhumanistes, encore une fois, examinent beaucoup, mais on en parle relativement peu, c'est ce qui s'appelle les risques existentiels. Donc, les risques existentiels, c'est les risques qui pourraient un jour mettre fin à l'histoire de l'humanité. Donc, il y a les technologies biologiques, chimiques, nucléaires. Il y a les armes, dont les armes nucléaires. Et puis, il y a probablement surtout en ce moment-ci toute la question du développement possible d'une intelligence artificielle qui dépasserait l'intelligence humaine et qui aurait pour conséquence, à un moment, le cas échéant, de supprimer l'humanité. Puis il y a la catégorie tout ce qu'on ne sait pas. Et par rapport à ces risques... Oui, pardon. Les risques existentiels... Les risques existentiels, c'est les risques qui pourraient mettre fin à l'histoire de l'humanité. Ici, la liste, c'est les risques existentiels d'origine anthropique, d'origine humaine. Il y a aussi, évidemment, les risques existentiels d'origine physique. Une supernova, un supervolcan qui exploserait. Mais bon, ces risques-là sont probablement plus faibles et ils ne sont pas, évidemment, influencés directement par l'humain. Qui, en fait, petite question, qui connaît le paradoxe de Fermi? Allez. Qui ne connaît pas le paradoxe de Fermi? Je fais le... Ah, non. Oh, toi, tu fais semblant. Il fait semblant. Gabriel fait semblant. Donc, le paradoxe de Fermi, c'est pourquoi nous ne comprenons pas pourquoi... Donc, pour autant que nous sachions, jusqu'ici, nous sommes seule espèce intelligente et même seule espèce vivante de l'univers. Il y a beaucoup de théories pour expliquer cela. Mais une des théories les plus angoissantes, c'est l'idée que toute forme d'intelligence qui arrive à un développement technologique suffisant finit par s'autodétruire. Parce qu'il y a quelque chose, parce que, j'aime bien la petite phrase, comment dire, l'erreur est humaine, mais pour une véritable catastrophe, il faut des technologies. Bien oui, donc il n'est pas inenvisageable que les progrès technologiques amènent de manière quasiment automatique à l'autodestruction. Pour ce qui concerne les armes nucléaires, vous savez très probablement que plusieurs fois dans l'histoire, on est passé à quelques secondes ou quelques minutes d'un conflit nucléaire généralisé. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que lorsqu'on a testé la première arme nucléaire, donc en 1944 au Nevada, il y avait un certain nombre de scientifiques qui pensaient que peut-être que ça allait provoquer comment dire, l'explosion ou le fait que l'atmosphère allait se transformer totalement et donc, allez, je ne tombe plus sur le terme exact, l'embrasement de l'atmosphère, merci. Il y avait un certain nombre de scientifiques qui pensaient ça et pourtant on a quand même fait le test. Et si vous allez sur Internet, vous pouvez trouver le document déclassifié concernant ce risque. Et donc c'est marqué, le risque d'embrasement est improbable, pas impossible, mais improbable. OK. Et peut-être par rapport au risque existentiel, pour moi, donc, et pour d'autres, c'est peut-être vraiment un message central. L'intelligence artificielle, il faut à la fois, enfin il faut. Nous pensons, les transhumanistes pensent que c'est une source d'espoir considérable, mais c'est aussi une source de crainte considérable. Et parfois, des opposants au progrès technologique disent, oui, mais vous êtes paradoxaux, vous dites à la fois que c'est dangereux et qu'il faut y aller. Ben oui, donc c'est dangereux et il faut y aller, pour toute une série de raisons, et entre autres pour ce que je vais développer concernant la longévité. Côté vertige, les développements actuels de l'intelligence artificielle permettent d'envisager une intelligence artificielle donc, qui dépasse l'intelligence humaine. Ça ne signifie pas nécessairement que cette intelligence artificielle aura une conscience. C'est envisageable, donc qui est donc une calculatrice. Quand vous utilisez une calculatrice, elle dépasse largement vos capacités intellectuelles, et pourtant vous êtes à peu près certain qu'elle n'a pas de conscience. Tous les mécanismes aujourd'hui qui dépassent l'humain dans de très nombreux domaines, il est envisageable qu'on arrive à les rassembler, qu'on arrive à les faire fonctionner les uns avec les autres, et que ça dépasse l'intelligence humaine, mais que néanmoins il n'y ait pas de conscience. Mais par ailleurs, on ne sait pas exactement ce que c'est la conscience, on ne sait pas exactement ce que c'est que le libre arbitre. Ça, c'est les questions vertigineuses sur lesquelles des philosophes ont réfléchi pendant des milliers d'années et des transhumanistes réfléchissent aussi, mais avec des éléments technologiques en plus pour comprendre, mais pas suffisants. Et puis, il y a la vieille question de Platon et la caverne. Existons-nous vraiment? Et qui aujourd'hui est développée par des gens qui s'intéressent au progrès technologique, notamment dans cette théorie qui s'appelle la théorie de la simulation. Pour le prendre en langage cinématographique, c'est Matrix. Et pour le prendre en langage un peu plus, comment dire, développé, c'est l'idée que il est envisageable que la conscience soit reproduite sur un support informatique. Et si ce support, s'il est possible de reproduire une conscience sur un support informatique, ça veut dire que vous pourriez être en fait vous trouver vous-même sur un support informatique. Donc là, parmi toutes les conséquences que ça a au point de vue de tout ce qui est vertige, ça veut dire si un jour on peut reproduire la conscience sur un support informatique, ça veut dire que CTRL-C, hein, ça vous fait une conscience en plus, et si vous appuyez sur la touche, c'est en France c'est suppression, vous détruisez une conscience. Donc c'est une des choses que nous ne savons pas aujourd'hui, c'est est-ce qu'un jour donc il sera possible de copier cette conscience non plus sur un substrat mou, donc sur ce qui est biologique, mais sur un support in silico, un support informatique. Alors je passe maintenant à la partie qui me passionne le plus, mon intérêt principal des deux prochains siècles, c'est la longévité. Alors je commence par d'abord dire que tous les transhumanistes, ou quasiment tous, sont longévitistes, c'est-à-dire recherchent des progrès technologiques, médicaux, qui permettent une vie beaucoup plus longue, voire sans limitation de durée pour ceux qui le souhaitent. Mais par contre, tous ceux qui sont longévitistes, tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là, ne sont pas des transhumanistes, c'est plus large que cela. Il y a probablement deux choses qui font consensus chez la plupart des transhumanistes. D'abord, c'est dire que améliorer et conserver, ça ne sont pas vraiment deux choses différentes. Le but de la médecine a en fait toujours été de permettre aux femmes et aux hommes de continuer à vivre. Et la différence entre ce qui s'est fait dans le passé et ce qui peut se faire demain, c'est simplement une différence entre ce qui n'est pas possible aujourd'hui et ce qui pourrait, enfin, et ce qui était possible aujourd'hui, ce qui est déjà possible aujourd'hui et ce qui pourrait être possible demain. Est-ce que le vieillissement c'est une maladie ou pas? Ça fait partie des discussions, mais en tout cas, ce qui est certain, mais je vais revenir à ça un peu plus loin, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, 90% et même plus que 90% des décès sont dus à des maladies liées au vieillissement, ou dit d'une autre manière, ça veut dire que plus personne, ou quasiment plus personne, sauf suicide, accident, etc., mais donc plus personne ou quasiment plus personne ne meurt pour des raisons médicales avant l'âge de 50 ans. La probabilité pour une femme aujourd'hui en France âgée de 18 ans de mourir l'année prochaine est de à peu près 1 sur 3000. Pour les jeunes hommes, grâce à des choses merveilleuses comme la consommation de tabac et les risques en voiture, c'est un peu plus, mais n'empêche, c'est quand même extrêmement peu élevé. Ça veut dire aussi que donc, s'il n'y avait pas les maladies liées au vieillissement, les femmes et les hommes aujourd'hui dans un pays comme la France vivraient en moyenne 2 à 3000 ans. Et puis il y a l'opposition software-wetware dont j'ai parlé déjà. Ça c'est l'aspect, encore une fois, vertigineux. Est-ce que c'est possible, serait possible un jour d'avoir l'immortalité, entre guillemets, sur un support informatique? Donc voilà, petit rappel. Aujourd'hui, dans le monde, à peu près 160 000 personnes vont mourir, et parmi ces 160 000 personnes qui vont mourir, à peu près 110 000 personnes vont mourir de maladies liées au vieillissement. C'est 90% des décès dans un pays comme la France, c'est 70% des décès dans le monde, et même dans les pays les plus pauvres, c'est de très loin la première cause de mortalité, même en Afrique subsaharienne, qui est la partie du monde où les gens vivent le moins longtemps, c'est à peu près 50% des causes de décès. Le mécanisme du vieillissement n'est pas un mécanisme universel. Il y a pas mal d'espèces d'arbres, par exemple, qui n'ont pas de mécanisme de vieillissement, mais c'est extrêmement répandu et ça touche ça touche tous les vertébrés et ça concerne quasiment tous les animaux. Pour les humains, j'ai déjà dit. Vous savez probablement que, contrairement à ce qu'on pense parfois, la durée de vie moyenne, mais c'est la durée de vie moyenne, elle continue à progresser dans le monde et même dans un pays comme la France de 2 à 3 mois par année. La durée de vie moyenne, lorsque on atteint 65 ans, elle continue à monter aussi, mais moins rapidement. Et par contre, la durée de vie maximale, elle ne progresse pas. C'est-à-dire, la personne qui a vécu le plus longtemps au monde, j'ai dit, c'était 122 ans. Et aujourd'hui, la personne qui a la plus âgée dans le monde n'a que 115 ans. On progresse très rapidement pour ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Dans mon petit pays, la Belgique, je ne sais pas les chiffres en France, mais ça doit être relativement similaire. La mortalité à âge égal par maladie cardiovasculaire a diminué d'à peu près 50% ces 30 dernières années. Cancer, les progrès sont également assez rapides. C'est à peu près, toujours à âge égal, une réduction de mortalité de 1% par année. Espérance de vie moyenne, je l'ai déjà dit. Mais par contre, les maladies neurodégénératives, qui sont donc les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies neurodégénératives sont les trois principales causes de décès aujourd'hui dans le monde. Donc les maladies neurodégénératives progressent extrêmement lentement pour ce qui concerne les thérapies et relativement vite pour la compréhension, mais extrêmement lentement pour ce qui concerne les thérapies. Là, c'est, mais je n'aurai pas le temps parce que je suis déjà occupé depuis 31 minutes et 35 secondes, mais je n'aurai pas le temps de vous développer tout ce qui est en ce moment étudié parmi les recherches médicales possibles, mais je voudrais dire quand même quelques mots sur les thérapies géniques. Les thérapies géniques, c'est de mon point de vue le domaine le plus prometteur pour ce qui est de gagner des années de vie en bonne santé. Et je donne toujours cet exemple ici des deux caméléons que vous voyez, ces deux espèces de caméléons de Madagascar avec un patrimoine génétique proche. Une espèce, c'est Furcifer labordi. C'est la durée de vie la plus courte parmi les vertébrés dans le monde, quelques mois. Et l'autre espèce peut vivre une dizaine d'années. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la durée de vie maximale, elle est fixée dans le patrimoine génétique et elle est relativement, entre guillemets, simple à modifier. Et les thérapies géniques aujourd'hui peuvent déjà être appliquées à des personnes adultes. Et donc, il n'est pas inenvisageable d'avoir un jour, mais pas super proche, mais un jour pas tellement lointain, des thérapies géniques qui permettront aux femmes et aux hommes qui le souhaitent, encore une fois, de se modifier et de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. La nuance importante, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas encore les gènes qui, pour l'être humain, à la différence d'autres espèces, mais on ne connaît pas encore aujourd'hui les gènes qui, pour l'être humain, influencent de manière importante concernant la longévité. Peut-être quand même un mot sur la piste qui est la plus connue. Les produits que vous voyez là sont parmi les produits dont on pense que administrer à des personnes en bonne santé, ça permet de gagner un peu d'années de vie, mais ça reste de l'ordre de quelques années. C'est pas des progrès tout à fait considérables. Quelques mots pour dire. Qui peut faire des progrès dans ce domaine-là? Pour le moment, dans le monde, les sociétés, les organisations qui ont pour but explicite de mettre fin aux maladies liées au vieillissement, c'est exclusivement ou quasiment exclusivement des sociétés américaines. Donc, c'est exactement, en fait, le seul qui a le but explicite, c'est Google Calico. Tackling Aging, mettre fin au mécanisme de vieillissement. La Chan Zuckerberg Initiative, c'est donc du fondateur de Facebook, a comme but explicite de mettre fin aux maladies, mais il ne parle pas du vieillissement. Je n'ai jamais très bien compris si c'était une sorte de choix tactique ou bien un manque de compréhension des difficultés. Et IBM via IBM Watson est le système lié à l'intelligence artificielle qui est le plus perfectionné dans les travaux en matière en matière médicale, mais pas tellement ne travaille pas tellement en matière de longévité. Et beaucoup moins, j'aurais pu changer le petit drapeau là par un drapeau français, mais donc beaucoup moins en Europe et beaucoup moins en France, même s'il y a pas mal de choses qui se font au niveau de l'Union européenne et pas mal de choses qui se font en France. Pour la France, il y a une place de pointe pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Hein, parfois, il y a des gens genre Laurent Alexandre qui disent « La France n'est rien, nous sommes 50 ans en retard, etc. etc. » Non, pour l'intelligence artificielle, la France est assez en avance. Pour la recherche médicale en général et la recherche relative à la longévité, plus particulièrement, via notamment l'Institut Pasteur, la France est aussi relativement en avance. Il y a aussi de l'industrie pharmaceutique, il y a aussi des start-up, mais il n'y a pas cette vision globale de le vieillissement est aujourd'hui ce qui a pour conséquence la mort de la majorité des gens, et donc nous devons nous y attaquer. Quelques mots, très rapidement, parce que sinon je vais dépasser le temps, sur les aspects sociaux et les aspects économiques. Si un jour nous parvenons à une vie beaucoup plus longue en bonne santé, ça représentera des économies tout à fait considérables, parce que ce qui coûte le plus cher en matière soins de santé, ça n'est pas le fait qu'on est plus âgé ou le fait qu'on est moins âgé, c'est le fait qu'on approche ou pas de l'âge du décès. C'est les 5 dernières années de la vie, et encore plus la dernière année de vie, qui coûte beaucoup plus cher au point de vue de la sécurité sociale, et évidemment qui provoque beaucoup plus de douleurs, etc. Et là, vous avez par exemple ici la différence. Donc, pour des personnes âgées américaines, pour le coût en matière de la sécurité sociale américaine, l'équivalent de la sécurité sociale américaine, l'équivalent d'une personne donc âgée durant une année normale de vie et durant la dernière année. Et les autres chiffres sont à peu près aussi spectaculaires, mais dans d'autres domaines, enfin dans d'autres pays. Contrairement à ce qu'on pense relativement souvent, le fait de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, c'est important par rapport à la question de la surpopulation, mais pas dans le fait que ça va favoriser la surpopulation, mais dans le fait que ça va favoriser la diminution du nombre d'enfants par femme. C'est aussi extrêmement important de savoir qu'il y a une corrélation très forte aussi, un lien entre l'avancée en âge, mais l'avancée en âge, ça ne veut pas dire le vieillissement, et la criminalité, ça s'appelle la curve crime aux États-Unis. Donc, lorsque vous avancez en âge, la probabilité de commettre des crimes diminue rapidement, et c'est extrêmement important dans une société dans laquelle les progrès technologiques, désolé de dire ça des jeunes, les progrès technologiques rendent la vie collective de plus en plus dangereuse. C'est extrêmement important d'arriver à un monde potentiellement de moins en moins violent. Et enfin, et peut-être surtout, si vous savez que vous allez vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, vous allez être beaucoup plus attentif au futur, parce que le proverbe « après moi le déluge », ou « après moi les mouches » on dit en Belgique, ne s'applique plus. Si vous savez que vous allez vivre beaucoup plus longtemps, vous allez prendre des dispositions par rapport à votre futur et par rapport à votre environnement, et vous allez avoir une tendance très nette à être plus prudent pour le futur. Mais alors maintenant, pourquoi est-ce que la plupart des gens finalement se disent « non, mais malgré tout ça », ou ne tiennent pas compte de tout ça et se disent que c'est une bonne chose de mourir de vieillesse? Eh bien, pour moi, il y a toutes sortes de choses qu'on se raconte, des histoires absolument extraordinaires, y compris des histoires religieuses, mais la raison centrale, elle est pour moi ici. Donc ça, c'est une fable d'Ésope qui a été reprise par La Fontaine, le renard et les raisins. Donc le renard voit des raisins absolument appétissants, et puis il se rend compte qu'ils sont inaccessibles, et il se dit, en fait, ces raisins doivent être sûrs, doivent être acides, ils ne doivent pas être bons. La raison pour laquelle, fondamentalement, nous racontons des histoires pour dire que c'est une bonne chose de mourir de maladies liées au vieillissement, d'une chose qu'en fait on ne souhaiterait pas à son pire ennemi, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, c'est plus soutenable de se dire que c'est quand même bien, tant qu'on n'a pas le choix. Et c'est une bonne chose, finalement, de fonctionner dans une société dans laquelle on vit sans trop de stress, ou en tout cas, on vit en acceptant la mort. C'est une bonne chose, sauf à partir du moment où il devient envisageable de mettre fin aux maladies liées au vieillissement. Et à partir du moment où ça devient envisageable, pour moi, le fait de s'opposer au progrès technologique en disant que c'est bien de mourir, c'est probablement psychologiquement compréhensible, mais c'est moralement non souhaitable, voire immoral, et en tout cas contraire notamment au principe, ça c'est comme juriste, de non-assistance à personne en danger, puisque, d'ailleurs, dans un pays comme la France, il y a eu, lorsqu'il y a eu le la question, les poursuites pénales en matière de sang contaminé. Il y a eu des scientifiques qui ont été poursuivis parce qu'ils ne tenaient pas compte des progrès scientifiques. Ils ont été poursuivis pour non-assistance à personne en danger. On pourrait dire un jour que le fait de ne pas faire de recherche en matière de lutte contre la longévité est une forme de non-assistance à personne en danger. Donc ça, j'ai dit, ça s'appelle aussi la théorie de la gestion de la terreur, le fait que l'espoir est un poison. Et maintenant, le dernier quart d'heure, c'est spécifiquement à propos de l'association française transhumaniste Technoprog. Donc français, c'est au sens communauté française en Belgique, c'est-à-dire francophone, puisque nous avons un Belge, mais je me soigne, mais aussi une personne du Cameroun, quelques personnes d'Afrique francophone, autre que le Cameroun, et bientôt des Canadiens. Qui sommes-nous, en quelques mots? On est plus de 100 personnes cotisantes. On est à peu près, probablement un peu plus de 1000 sympathisants. On est tous 100% bénévoles. Ça, c'est important. Important pour Google, le jour où ils souhaitent nous verser 1 million par mois, on est d'accord, mais pour le moment. Donc, non, sérieusement, donc, l'idée que parfois on a déjà entendu, oui, mais en fait, vous êtes financés par des grands groupes, non, rien du tout. On est, je pense, 97% représentatifs en francophonie, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres mouvements officiellement transhumanistes, sauf des tout petits groupes. Et puis, pour moi, certaines personnes utilisent le terme hyperhumaniste. Pour moi, c'est une sorte Joël de René. Pour moi, c'est une sorte de synonyme. Il y a pas mal de gens qui disent, moi, je ne suis pas transhumaniste. Et je suis pour certains progrès technologiques. Pour moi, c'est une manière de s'écarter parce que le terme transhumaniste fait peur. Mais en fait, très souvent, c'est les mêmes idées. Il y en a parfois même qui sont, je dirais, plus transhumanistes que nous sur certains aspects. Et puis, vous savez qu'il y a pas mal de gens qui se définissent comme anti-transhumanistes. Ça viendra très certainement dans les questions. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, on a un site internet, on est moderne. Bon. Sérieusement, nous avons évidemment un site internet, nous avons évidemment une lettre mensuelle, un groupe Facebook, et tout ça est accessible pour tous sans limitation. On participe à des réflexions tant en France qu'à l'étranger, au sein notamment de l'AIET, c'est-à-dire l'Institute for Ethics and Emerging Technologies, qui est probablement le site internet en tout cas où il y a le plus de développement écrit concernant toutes les questions liées au progrès technologique. L'essentiel est en anglais, mais les textes de l'AFT sont souvent en français et en anglais. Nous avons une participation institutionnelle, notamment dans le cadre de la révision des lois bioéthiques. Le président Mark Crooks a été invité à s'exprimer. Et puis nous avons une participation médiatique, mais relativement modérée, donc toujours principalement dans le monde francophone. Pour savoir ce que vous proposez, vous avez le choix entre au moins deux. Ce que nous proposons, vous avez le choix entre au moins deux livres, donc celui de Marcus et moi-même, et le livre extrêmement cher de Alexandre. Qui est 3 euros, je pense, donc, mais qui est aussi accessible totalement gratuitement sur le site internet de l'AFT. Et pour savoir ce que nous proposons aussi, donc nous avons exprimé des propositions, notamment sur la question de longévité, notamment sur la question de l'analyse des tests ADN dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. Au point de vue participation internationale, donc il y a un événement qui s'appelle Transvision, qui se fait tous les 3-4 ans depuis une vingtaine d'années, qui est une rencontre internationale des transhumanistes. Et donc c'est intéressant de savoir que les 3 dernières éditions se passent non pas aux États-Unis, mais en Europe. Donc on avait organisé principalement l'AFT à Paris, à Bruxelles, et cette semaine, à partir de vendredi, ça se passe à Madrid. Donc c'est des transhumanistes de pas mal de pays qui se rencontrent. Et parmi les questions qui seront discutées cette fois-ci, il y aura est-ce que c'est souhaitable, envisageable que des personnes qui ont des propositions en matière de longévité se présentent aux élections européennes. Donc il y a des futuristes britanniques, des transhumanistes allemands, néerlandais, espagnols, italiens, et évidemment français et évidemment américains. Du côté des Américains, l'organisation principale, non, j'ai mis organization, c'est association, c'était WTE, qui est devenue aujourd'hui l'organisation Humanity Plus. Il y a aussi un parti transhumaniste américain. Et puis alors, il y a la Silicon Valley, avec les GAFAM. Hein. Donc, les sociétés qui sont les plus puissantes au monde actuellement, qui sont aux États-Unis et en Chine, s'intéressent aux progrès technologiques. Un certain nombre de gens qui sont dans ces sociétés, mais relativement peu, se définiront comme transhumanistes, mais la plupart ne se définiront pas comme tels. Maintenant, les grosses exceptions sont là. Je pense que j'en ai peut-être oublié un ou deux, mais pas beaucoup. Ray Kurzweil, que j'ai déjà cité. Google Calico, c'est la société pour lutter contre la mort de vieillissement. Peter Thiel, qui n'est pas le plus à gauche des transhumanistes, et Peter Diamandis. J'en oublie quelques-uns peut-être, mais ça reste, même aux États-Unis et même dans la Silicon Valley, un groupe relativement réduit. Et puis alors, il y a la Singularity University. Peut-être parmi quelques anecdotes, la Singularity University en France. Donc d'abord, la Singularity University, c'est une sorte d'université, mais plutôt, on va dire, une sorte d'établissement d'enseignement qui a été créé pour des personnes prometteuses dans des sociétés pour réfléchir aux problématiques du futur. Il y a la Singularity University aux États-Unis, mais qui n'est pas extrêmement actif. Et puis, il y a aussi une petite Singularity University en France. Et donc, l'anecdote que je voulais dire, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on utilise le terme singularité. Donc, on se demande pourquoi ils ont choisi le nom, parfois, mais voilà. Pour aller plus loin aussi, au point de vue de la réflexion, donc, tout récemment, principalement l'AFT, mais aussi en collaboration avec d'autres personnes qui réfléchissent aux problématiques, on va dire, du futur, a été créé l'Institut Prométhée. Et nous proposons aux établissements d'enseignement, aux entreprises, etc., un certain nombre de formations. Un, ça va tous vous surprendre, concernant la question de la vie plus longue en bonne santé. Le vieillissement est-il une maladie? Et puis la question de l'intelligence artificielle, qui est probablement la plus abordée pour le moment en France, et à raison, pour un transhumanisme open source, transhumanisme et quête de sens. Voilà, voilà. Dernière chose, donc encore pour faire une sorte de différence et de non-différence entre le transhumanisme technoprogressiste et les autres écoles de pensée, et aussi entre le transhumanisme en général et les autres questions politiques. Certains, c'est James Hughes en fait, qui est l'inventeur du terme technoprogressisme. C'est un Américain il utilise ce terme, à mon avis, depuis 15 ans, une quinzaine d'années. Il a fait ce petit schéma en disant que on peut diviser en fait les opinions selon trois axes différents. Il y aurait l'axe, on va dire, économique. Pour moi, c'est l'aspect gauche-droite le plus classique. La gauche étant pour le plus d'égalité et la droite étant pour le plus d'inégalité, en se disant, enfin, crucialement, etc. Ensuite, il y a la question des politiques culturelles. La gauche, généralement, étant pour le plus de liberté, mariage, le mariage ne doit pas être nécessairement entre un homme et une femme, la liberté de se modifier soi-même, non, ça se rentre déjà, enfin bon, tous les aspects, on va dire, de liberté culturelle. Et puis la troisième différence qui est nouvelle et qui vient avec le transhumanisme, c'est la différence qu'on pourrait classer notamment entre bioconservateur et bioprogressiste. C'est peut-on considérer, ou est-il souhaitable, ou est-il acceptable que nous nous transformions nous-mêmes, sachant donc que là, ça divise les autres questions politiques aussi. Et il n'y a pas, ce sont des problématiques qu'on pourrait définir comme orthogonales. On peut être à la fois de gauche et considérer qu'il ne faut pas se transformer soi-même. On peut être de gauche et considérer qu'on peut se transformer soi-même, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est ce schéma-là. Donc, encore une fois, a été fait par James Hughes, mais je pense qu'il répond bien à la question de savoir est-ce que c'est incompatible ou pas d'être de gauche et transhumaniste, d'être favorable à la transformation des êtres humains pour une vie en bonne santé beaucoup plus longue, ou pour d'autres améliorations, et par rapport à d'autres questions politiques. Voilà, c'est à vous.